Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire d'une décennie pendant laquelle une petite île italienne située à moins de 200 km de la Tunisie est devenue le théâtre des paradoxes d'une Europe globalisée et indifférente au malheur de ses voisins de l'autre rive. Lampedusa, c'est le nom de cette île et c'est le nom d'un phare, horizon pour les migrants qui prennent la mer pour atteindre l'Europe quand ils l'atteignent. En septembre 2015, après la publication d'une photo d'un enfant syrien d'origine kurde retrouvé mort sur une plage turque, on s'est souvenu qu'on périssait encore en voulant traverser la Méditerranée. Avant Ilan Kurdi, d'autres photos avaient fait la une de nos journaux. Parmi ces souvenirs, enfouis ou vivaces, il y a ces images de corps alignés sur les quais du port de Lampedusa le 3 octobre 2013. 366 personnes seront finalement repêchées aux abords de l'île italienne. À l'époque, ce fut le pire drame en mer de ce siècle commençant. Depuis, d'autres embarcations chaviraient, emportant encore plus de vies. Alors, comment la Méditerranée est-elle devenue le passage le plus meurtrier du monde? D'où viennent ces migrants? Comment l'Europe et l'Italie les accueillent-ils quand ils ne rejettent pas la mer? Nous sommes aujourd'hui en 2019. Des hommes et des femmes continuent de fuir des pays où ils ne peuvent plus vivre. Et le constat est le même. Peu arrivent à traverser la Méditerranée, beaucoup échouent et meurent. Notre invité aujourd'hui est journaliste. Il a quitté la Guinée en août 2013, à 25 ans, menacé par la dictature au pouvoir. Il a réussi à venir en France en novembre 2016, mais entre ces deux dates, il a connu l'enfer libyen. C'est son histoire qu'il nous racontera après le récit, et cette histoire a un nom, le sien, Alpha Kaba. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Deux octobre 2013, en pleine mer, entre Tripoli et Lampedusa. Un bateau ivre, rempli de 500 hommes, femmes et enfants, quitte les côtes libyennes avec comme pour seul bagage un peu d'eau, quelques biscuits et un GPS pour une traversée dont ils ne connaissent pas la durée. Parmi eux, il y a une jeune fille de 23 ans. Elle s'appelle Letter Bran. Son odyssée a commencé il y a un peu plus d'un an. Partie d'Érythrée avec sa meilleure amie, Sénaïte, pour échapper au service militaire obligatoire, elle a quitté ce pays de la Corne de l'Afrique sans pouvoir dire au revoir à ses parents. À deux, elles ont pris la route vers l'Europe, comme un cinquième de la population de ce petit pays. Pour l'atteindre, elles ont traversé l'Éthiopie, le Soudan, ont passé des jours à travers le Sahara sur des pick-up blindés. Elles ont connu la chaleur, le manque d'eau et parfois les abus de leurs passeurs, exploiteurs de la misère humaine. Après des mois de voyage, elles sont arrivées à Tripoli sans y voir la mer. Enfermées dans des maisons isolées, accompagnées par d'autres candidats à l'exil, elles ont attendu le grand jour. Alors, pour passer le temps, elles parlent avec les autres migrants de leur parcours et de cette vie rêvée qui les attend de l'autre côté. En attendant de prendre la mer, elles se répètent les noms des villes qu'elles doivent atteindre l'une après l'autre. Lampedusa, Ventimille, Paris, Sangatte. Au dernier jour du mois de septembre 2013, en pleine nuit, on vient enfin les chercher. Chargées dans des camions réfrigérés comme on charge des marchandises, elles font le tour de la ville, se serrant un peu plus pour laisser une place aux autres migrants que les passeurs collectent. Chacun doit payer entre 1000 et 3000 dollars pour risquer sa vie et espérer atteindre l'Europe, par la mer. Dans une nuit obscure, Letter Bran et Sénaïte s'assoient l'une contre l'autre à bord d'un vieux chalutier. En quittant cette rive, ces deux filles d'Afrique prient leur Dieu et la mer de les laisser passer. De l'autre côté, à 160 000 nautiques, l'île de Lampedusa agit comme un aimant. Façonné par les vagues, ce caillou de 20 km de superficie est la première terre européenne. Située entre la Tunisie et la Sicile, l'île porte le nom de la seule ville qui est sur cette île, précisément, où 6000 personnes vivent de la pêche et du tourisme. 6000 Européens en première ligne, à la frontière entre deux mondes, témoins de l'arrivée des vivants et des morts de l'autre rive. Le 3 octobre 2013, au petit matin, les damnés de la terre sont des centaines à s'échouer. parti la veille avec des amis en bateau pour profiter de la baie de Tabacarra et de son eau turquoise, Charani et Linda, deux Européennes d'Italie, sont réveillées en pleine nuit par des bruits lointains, un peu comme celui d'oiseaux en perdition. Alors elles lèvent l'ancre et prennent la mer. Après quelques minutes, elles voient des points noirs sur l'eau. C'était comme une mer de têtes, se souvient Linda. Un par un, à l'aide de leurs amis, elles récupèrent les naufragés. Ils sont souvent nus, le corps enduit de gasoil. En 2 heures, elles en sortent 47, dont une seule femme. Fuorino était également en mer. Lui aussi était réveillé cette nuit-là. Il raconte.
Je dormais dans une zone s'appelant la Tabacarra. J'attendais l'aube pour commencer à pêcher. Quand, avec des amis, on a cru entendre des hurlements et des voix. À un moment donné, on est entré dans l'eau. Et là, ce qu'on a vu était affreux. De nombreuses personnes, les bras levés, qui hurlaient. En attendant l'arrivée des secours, on a fait monter à bord de notre bateau des gens qui étaient alors épuisés d'avoir nagé. Ça faisait déjà 3 heures qu'ils étaient dans l'eau.
À bord du chalutier, tout est allé très vite. Après 47 heures de traversée, les Terbran et Sedaït aperçoivent les premières lumières, au loin, comme des lucioles. L'Europe est là, à quelques kilomètres seulement. Sans essence pour poursuivre, certains migrants allument les lumières de leur téléphone portable et espèrent ainsi être vus. Les heures passent, mais aucun signe de secours. Alors un homme met le feu à une couverture. Pris de panique, un mouvement de foule fait basculer le bateau. En quelques minutes, l'embarcation rejoint le fond, emportant avec elle ceux qui n'ont pu s'échapper, dont Sedaït. Les Terbran, elle, a tenu la coque du bateau jusqu'au bout, puis elle a nagé des heures durant, avant qu'un bateau ne la récupère, enfin. Elle est l'une des survivantes de ce naufrage du 3 octobre 2013, aux abords de Lampedusa. Quelques heures plus tard, après les vivants, ce sont les premiers morts que l'on décharge sur le quai, puis qu'on place sur des sacs en plastique. Ils seront 366 à être repêchés ou récupérés sur les plages du Sud. Mais combien sont-ils à avoir été engloutis par la mer sans laisser de traces depuis ce jour d'octobre 2013, victimes de leurs rêves, pourtant si légitimes? Fuir une dictature, une armée, une famine. Comment Lampedusa est-elle devenue un cimetière pour les migrants et une citadelle pour les Européens?
Io mi chiamo Adiam. Io sono d'Eritrea.
Je m'appelle Adiam, je viens d'Érythrée, en Afrique. Je suis arrivée en Italie en 2003 par la mer, en barque.
Et pourquoi avez-vous quitté l'Érythrée?
Parce que notre gouvernement était une dictature et il y avait la guerre aussi, alors j'ai fui la guerre. J'ai mis beaucoup de temps pour arriver en Italie. J'ai dû traverser le Soudan, le désert, la Libye, puis la mer. Quand on est arrivé au large de la Tunisie, il y a eu une tempête. La barque a chaviré. On a crié « à l'aide, à l'aide ». On a brûlé nos t-shirts. C'était la nuit. Un bateau tunisien est arrivé et nous a sauvés. Il nous a donné une grande barque. Par chance, je ne suis pas morte, mais beaucoup d'autres, oui.
Pero sei tu morto, morto.
Mort.
Finito.
C'est 10 ans avant le naufrage du 3 octobre qu'Adiam est arrivé à Lampedusa. Cette année-là, 8819 migrants ont été arrêtés aux frontières maritimes de l'île. Ces arrivées représentent déjà plus de 60% du total des migrants arrêtés sur le territoire italien. Au début de ce nouveau millénaire, les problèmes liés à l'immigration clandestine constituent en Europe une question prégnante. En Italie, en 2002, les parlementaires votent une nouvelle loi sur l'immigration dite Bossi-Fini, du nom de ses auteurs, Umberto Bossi, un ancien chef de la Ligue du Nord, et Gianfranco Fini, fondateur du parti post-fasciste Alliance Nationale. Cette loi, votée le 4 juin, durcit les conditions d'entrée des immigrés en Italie, limite le séjour dans les centres, exige la prise des empreintes digitales de tous les étrangers non originaires de l'Union européenne, accélère également les procédures d'expulsion et instaure le délit d'immigration clandestine qui interdit aux bateaux de pêche de porter secours aux migrants en détresse. À la suite de ce vote, le centre d'accueil situé à Lampedusa devient un centre de détention, où la durée maximale de séjour peut aller désormais jusqu'à 60 jours. Et chaque mois, on apprend le naufrage d'un bateau, la découverte d'un ou deux dizaines de corps sur une plage du Sud. Le 19 octobre 2003, ce sont 14 personnes qui perdent la vie à quelques kilomètres des côtes italiennes. Année après année, Lampedusa devient une sorte de laboratoire de la politique sur l'immigration dans l'Italie de Berlusconi. En octobre 2004, le gouvernement signe avec les autorités libyennes un accord de surveillance des frontières, avec fourniture de moyens matériels, mise en place de patrouilles mixtes et dispositifs d'expulsion facilités. En 2005, la politique migratoire européenne évolue également vers plus de contrôle. L'Union se munit d'une agence dénommée Frontex, qui coordonne et gère l'action des pays membres sur ses frontières extérieures. Frontex surveille, compte, fiche, décrypte les routes migratoires et devient un soutien logistique aux pays de l'Union. Désormais, à Lampedusa, les bateaux de guerre côtoient les bateaux de pêche. Au petit matin, les migrants sont des dizaines à débarquer sur le quai, une couverture de survie sur le dos avant d'être emmenés en bus vers le camp situé en dehors de la ville. Derrière ces murs, aucun journaliste n'a le droit de pénétrer. Que se passe-t-il à l'ombre des caméras ? Pour en savoir plus, en septembre 2006, Fabrizio Gatti, journaliste de l'hebdomadaire L'Espresso, se jette à l'eau à quelques centaines de mètres d'une plage de Lampedusa et se fait passer pour un migrant. Après avoir été secouru par des riverains, il est amené auprès des carabiniers qui l'envoient dans le camp. Après 6 jours enfermé dans ce centre, il est envoyé en Sicile, puis relâché avec comme seule consigne « Vous avez 6 jours pour quitter l'Italie ». Alors que ses compagnons de fortune prennent la route vers le nord, lui rentre à Rome et écrit un article intitulé « Dans l'enfer de Lampedusa », où il décrit les conditions inhumaines, les humiliations et les brimades des gardiens. Il raconte notamment comment certains gardiens contraignent des musulmans mineurs à regarder des images pornographiques, à se dénuder en public. Il pointe également les mauvaises conditions sanitaires, le surpeuplement. Durant son séjour, il n'a reçu aucune aide juridique. Cette année-là, en 2006, le journaliste de France Inter, Eric Valmire, est sur place. Il rencontre Frédérica, une bénévole de Médecins Sans Frontières, qui a accès au centre.
Moi, personnellement, j'aimerais pouvoir avoir du temps pour visiter les gens. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps pour le faire. Et les choses qui m'ont frappé, c'est les yeux des immigrés. C'est plein de peur. Parce qu'ils sont vraiment ils sont effrayés. Et c'était quand même très frappant de voir des personnes baiser le sol. On dit comme ça? Et j'avais vu ça seulement une autre fois dans ma vie en Israël, il y a 15 ans. Et ça te frappe beaucoup, je trouve.
Malgré le tollé politique, la situation n'évolue pas. Pire, en 2008, le gouvernement de Berlusconi décide de ralentir les transferts et de plonger un peu plus le centre dans une situation d'urgence. En décembre, le gouvernement italien annonce que quiconque arrivera sur l'île de façon illégale sera détenu pour une durée indéterminée et que les demandes d'asile se dérouleront désormais sur place. Alors que le centre est pensé pour accueillir 351 personnes, au début du mois de janvier 2009, on en compte plus de 2000 détenus derrière des barbelés. Dans la rue désormais, les habitants manifestent contre la militarisation de leur île, qu'ils comparent à un Guantanamo des clandestins. Pour certains lampedusiens, la petite île balnéaire est devenue une prison, comme le raconte cette habitante.
C'est tout un petit village. L'impression bizarre, c'est qu'on croit d'être contrôlé par la police. On ne peut pas aller faire les courses quand on voit la police. Donc, tu as l'impression que la police est là pour te contrôler. Ce n'est pas pour l'immigration, mais c'est pour toi. Parce que c'est trop. En fait, vraiment, on ne peut pas sortir de la maison qu'on voit des polices, des militaires, toujours, toujours. Même l'autre jour, on allait au restaurant et il n'y avait que 2 clients, en fait, nous et la police.
Année après année, à Lampedusa, le passage des migrants laisse des traces. Quelques mots, des vêtements abandonnés sur les plages du sud de l'île et des croix en bois dans le cimetière de la ville qui accueille les corps que la mer a bien voulu faire réapparaître. Il y a les croix blanches avec comme seule indication un numéro, puis celle dont on a retrouvé l'identité. Pour elle, les Lampedusiens offrent des sépultures avec les noms gravés sur du marbre. Dans ce carré des naufragés, les dates, les noms, les catastrophes défilent, plaque après plaque. Sur l'une d'elles, on peut lire « 16 avril 2009, le navire marchand Tuc Pinar, en route vers la Tunisie, se porte au secours d'une embarcation en difficulté. À bord du cargo, on a transféré le corps sans vie d'Esterada, 18 ans, nigériane. » Au cœur de l'île, sur un terrain vague, un autre cimetière voit le jour, celui des épaves de bateaux. Entassés les uns à côté des autres, ils sont les derniers vestiges de ces traversées. Certains sont des vieux chalutiers, d'autres des bateaux de pêche. Presque neufs, tous ont des indications arabes sur la coque. En 2011, sur l'autre rive, la révolte gronde. En 4 semaines, les Tunisiens poussent au départ le président Ben Ali en poste depuis 1987. Puis c'est l'Égypte qui s'embrase. Le 11 février 2011, le président Moubarak annonce qu'il s'en va. En Libye, malgré les mobilisations, le dictateur Kadhafi refuse de quitter le pays. Il faudra attendre l'épreuve des armes et le début d'une guerre civile pour que le pouvoir cède. Dans ces pays, les passeurs poursuivent leur trafic, envoyant chaque jour un peu plus des migrants à bord de leurs bateaux miteux. Parmi eux, Haitem, jeune Tunisien de 19 ans. En 2011, au lendemain de la révolution, Alexandre Degnaud de France 2 suit son odyssée pour envoyé spécial de Zarzis jusqu'en Italie. Elle est avec lui à bord du bateau qui l'emporte.
Tu vois, après la collision, je suis tombé dans l'eau. J'ai essayé de m'agripper au bateau des gardes nationaux. Mais le capitaine a surgi de nulle part pour me frapper. Et il m'a dit, tu vas rester là, dans la mer. Tu montes pas. Mais moi, je me suis accroché et j'ai réussi à monter quand même.
Ça marche pas cette fois-ci. Tu vas recommencer encore ?
Normalement.
Mais si Dieu veut, là ça va marcher.
Après avoir passé quelques jours à Lampedusa, au centre de détention, Haitem arrive en Sicile, passe par l'Italie, puis rejoint la France. Il est l'un des 51 753 migrants recensés qui ont débarqué sur l'île italienne en 2011. Cette année-là, ce nombre représente 82% des migrants recensés dans le pays. Avec des arrivées qui constituent près de 10 fois la population de l'île, Lampedusa devient l'étape numéro 1 des routes migratoires de ces réfugiés qui cherchent à tout prix à rejoindre l'Europe. Lampedusa devient aussi une étape pour les populistes de tout genre qui font de cette île le symbole d'une Europe passoire. Le 14 mars 2011, par exemple, Marine Le Pen, alors en campagne pour la présidentielle, se rend à l'improviste sur les lieux. Accompagnée par Mario Borghezio, député européen du Parti de la Ligue du Nord, elle reste à peine 2 heures sur l'île, le temps de faire le tour des médias français, italiens, allemands.
L'Europe n'a pas la capacité d'accueillir l'ensemble de ces clandestins. Que les peuples d'Europe sont en situation telle d'appauvrissement que nous ne pouvons pas assumer, en plus d'une immigration légale qui est déjà très importante, je parle évidemment de la France, une immigration clandestine.
Quelques jours plus tard, c'est Silvio Berlusconi, président du Conseil italien, qui fait le déplacement et qui promet le départ des réfugiés vers d'autres structures dissimulées sur la péninsule. Il vient annoncer également le financement d'un plan de communication pour relancer le tourisme dans l'île. Dans les journaux, Lampedusa reste le nom d'une mauvaise conscience européenne, d'une histoire sans fin, celle des naufragés en Méditerranée où l'on apprend la mort de 10, 20, 30 réfugiés, un jour d'été ou d'automne, à quelques kilomètres de nos côtes. Mais comme une vague chasse l'autre, chaque drame fait oublier le précédent. Les naufrages deviennent alors des informations dont on ne donne que la date et le nombre de survivants, comme si on avait accepté que notre Méditerranée soit devenue fosse commune. Alors que les institutions de l'Union européenne hésitent, attendent, accentuent les contrôles et les expulsions, c'est un homme d'église, le pape François, qui rappelle l'existence de l'île et de tous ses morts en Méditerranée. En juillet 2013, pour son premier voyage, le pape débarque à Lampedusa. Dans son homilie, il demande pardon pour cette globalisation de l'indifférence.
Nous nous sommes habitués. Nous sommes habitués aux souffrances de l'autre. Cela ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre affaire. Revient la figure de l'innominé de Manzoni. La globalisation de l'indifférence nous rend tous innommés, responsables, sans nom et sans visage.
Quelques semaines plus tard, le 3 octobre 2013, 366 migrants périssent en mer, toujours dans l'indifférence, ou presque. Thank you.
truth been wrong. It shows in your reflection, you've fallen out of touch. Got lost along the way, and no, it's not enough. But these things, they all get better, and even if it's tough.
Faute de place dans l'église, ils sont des centaines sur le parvis balayé par le vent du nord, venus se recueillir à la mémoire des victimes du naufrage, comme Giovanna.
J'ai mal au cœur, moi. Et c'est pas la première fois. Il y a toujours des immigrants ici, alors. Des enfants, tout ça, ils sont morts, alors. C'est tout, ça va.
Lampedusa est restée ville morte toute la journée, drapeau en berne, écoles et commerces fermés. Max est sénégalais, ça fait 20 ans qu'il habite ici et c'est la première fois qu'il vit un tel drame.
Ceux qui sont venus ici, ce sont nos frères, nos parents, ce sont tous de l'Afrique et nous sommes des Africains. C'est pourquoi nous sommes venus avec les Italiens pour commémorer la situation.
La messe sera suivie d'une procession. Le cortège passera sur le port de pêche où l'on voit quelques drapeaux noirs avec ce mot écrit en blanc, « Vergogna, la honte ». À Lampedusa, Philippe Leduc, Sandy Dauphin, France Inter.
Ce 4 octobre 2013, à Lampedusa, au lendemain du naufrage d'une embarcation de migrants qui a provoqué la mort de 366 personnes, les Lampedusiens déplorent ces nouvelles victimes qu'ils retrouvent désormais sur les écrans de télé et dont on cache le visage et le nom. D'où viennent-elles? Quand ont-elles pris la route vers l'Europe? D'Érythrée, de Syrie, d'Éthiopie, quelle guerre se cache derrière ces vies? Pourquoi ces hommes, ces femmes, ces enfants ont-ils décidé de tenter cette traversée? Dès l'annonce du drame, l'émotion passe les frontières. Le 4 octobre 2013, le gouvernement italien décrète un jour de deuil national. Le pape François, en déplacement à Assise, accuse de nouveau le monde d'indifférence envers ses réfugiés. Des politiques du pays et de l'Union européenne, dont José Manuel Barroso, viennent saluer la mémoire des morts. Au même moment, à l'intérieur de sa petite mairie, Giusy Nicolini tient le décompte macabre des victimes que la maire lui livre chaque jour. Au lendemain de son élection en 2012, elle avait déjà alerté les autorités de Rome avec une lettre courte et sans appel. « Je suis la nouvelle maire de Lampedusa », écrit-elle. « On m'a affecté 21 cadavres de personnes qui tentaient d'atteindre l'île. Notre cimetière n'a plus de place. Nous allons l'agrandir. Mais dites-moi, quelle superficie doit-il atteindre ?» Un an plus tard, au lendemain du drame, malgré les annonces, Lampedusa retombera selon elle dans sa solitude, seule au milieu de la mer, à secourir ceux que l'Europe refuse d'accueillir.
Lampedusa sera di nuovo lasciata sola domani. La grande solitudine.
Lampedusa sera de nouveau laissée toute seule demain. La grande solitude de Lampedusa, c'est que même après le passage du pape François, on se rend compte que rien ne change dans les lois, les politiques d'accueil, même dans les secours portés à ces réfugiés qui ne sont pas des clandestins, des immigrés légaux. Et ce n'est pas aux forces de police d'aller les récupérer dans l'eau, vivants ou morts. Il devrait y avoir des couloirs humanitaires.
Le naufrage du 3 octobre 2013 est à l'époque le drame le plus important de ce siècle qui commence. Alors, le gouvernement italien lance une première opération de surveillance et de secours qui porte le nom de Mare Nostrum. Sur les mers, désormais, des bâtiments militaires italiens partent au secours des migrants jusqu'aux côtes libyennes. Alors que chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à être ramenés sur terre sains et saufs, c'est à l'intérieur du centre d'accueil que les critiques se portent de nouveau. Le 16 décembre 2013, le journal de la RAI 2 diffuse un reportage réalisé à l'aide d'images du téléphone portable de Khaled, un réfugié syrien qui a filmé l'intérieur du camp. On y voit les migrants, hommes, enfants, attendre nus dans le froid avant d'être aspergés de produits désinfectants. Les membres du centre les traitent sans considération, jetant leurs affaires à terre. L'effroi est grand sur l'île, comme en Europe. Cécile Malmström, commissaire européenne aux affaires intérieures, déclare sur Twitter l'ouverture d'une enquête sur ces traitements qu'elle juge épouvantables. Et le gouvernement italien suspend les dirigeants du centre et il annonce l'évacuation du camp pour une remise à niveau ainsi qu'une révision des lois dites Fini-Bossi. Sur le plan des sauvetages, après un an d'existence et 150 000 personnes sauvées, l'opération Mare Nostrum est arrêtée. À partir du 1er novembre 2014, l'Europe prend la relève avec l'opération Triton. Malgré une coordination européenne sous la houlette de Frontex, le budget de l'opération passe de 9 millions par mois à 3 millions. À l'inverse de l'initiative italienne, Triton n'est pas une opération de sauvetage, non, mais de surveillance sur l'ensemble des eaux territoriales européennes. Quelques mois plus tard, le 19 avril 2015, un nouveau drame fait la une des médias du monde.
Inter. Nouvelle tragédie en Méditerranée selon un scénario qui se répète. Un chalutier de 20 mètres de long avec à son bord plus de 700 migrants alors qu'il ne pouvait accueillir qu'une centaine de passagers a fait naufrage à 110 km des côtes libyennes. Dans la nuit, les migrants lancent un appel de détresse suite à des difficultés de navigation. Les gardes-côtes italiens déroutent sur la zone un navire marchand portugais. En le voyant arriver, les migrants se portent tous du même côté de l'embarcation, la faisant chavirer. 28 personnes ont été secourues pour l'instant et d'autres navires ont été dépêchés sur place pour trouver des survivants. Si le nombre de 700 victimes était avéré, cela porterait le bilan des morts en Méditerranée à 1600 depuis le début de l'année, alors qu'il était de 47 victimes à la même époque en 2014. Hausse également du nombre de migrants à accueillir pour l'Italie depuis le début du mois d'avril. 15 000 nouvelles personnes, dont de nombreux enfants, sont arrivées dans la péninsule. Le HCR demande désormais la mise en place d'un Mare Nostrum européen.
4 jours plus tard, le Conseil européen annonce que l'Union européenne mettra tout en œuvre pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines en mer. Pour cela, elle lance une opération militaire pour lutter contre les passeurs et les trafiquants humains. Encore une fois, son objectif n'est pas le sauvetage, mais la surveillance et la lutte contre le trafic. Après chaque drame, certes, Bruxelles s'émeut, puis hésite, tâtonne, modifie les lois, espère toujours faire de la Méditerranée un mur étanche. Alors, dès la fin de l'année 2014, ce sont les ONG qui prennent le relais des sauvetages en mer, comme autant des boat people vietnamiens. Le drame est désormais à quelques centaines de kilomètres de nos plages. Des médecins et des bénévoles partent en mer secourir ces migrants. À Lampedusa, les habitants poursuivent leur vie d'accueil et de deuil. Parmi eux, ce médecin filmé dans le bouleversant documentaire intitulé « Fuoco a mare » par « De la Lampedusa » de Gianfranco Rossi, ours d'or au dernier festival de Berlin et qui sortira en septembre 2016. Devant un écran d'ordinateur, il montre les photos d'un bateau de réfugiés puis d'un adolescent allongé, rachitique. Il raconte les traces de la traversée sur les corps meurtris, les brûlures dues au mélange d'eau et d'essence, la déshydratation et l'étouffement. Avec retenue, il parle des vivants et se souvient des morts de Lampedusa.
Tout homme a le devoir, s'il est un être humain, de secourir ces personnes. Quand nous y parvenons, Nous en sommes vraiment heureux. Heureux d'avoir pu les aider. C'est parfois impossible, hélas. Je dois parfois assister à des choses épouvantables. Des morts, des enfants. Quand cela arrive, je suis obligé de le faire. Ce que je déteste le plus, l'inspection de cadavres. J'en ai fait beaucoup, sans doute trop. Beaucoup d'amis ou de collègues me disent « Tu en as tellement vu. » Tu es habitué. C'est faux. Comment peut-on s'habituer à voir des enfants morts, des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché sur des canots en perdition, l'enfant encore attaché par le cordon ombilical? Tout ça te laisse une colère, un vide dans l'estomac, un trou. Tu penses... Tu rêves d'eux, je fais des cauchemars où je revis, souvent, souvent.
Aujourd'hui encore, de l'autre côté de la rive, des migrants prennent la route de l'Europe, quittent leur pays, traversent des déserts, attendent dans des maisons des jours entiers, puis tentent leur chance par la mer. Combien survivront à la prochaine traversée? Combien de bateaux coulent sans même qu'on ne le sache?
How many people? How many people?
250.
Your position.
There is in danger. Please, we beg you, please, save us.
Your position.
In the name of God.
Your position. Hello. Hello.
En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison. Forcés de se réfugier.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Lampedusa et les migrants. Lors de la diffusion précédente, nous avions reçu le grand reporter Jean-Paul Marie, qui a vécu pendant 21 jours à bord de l'Aquarius, ce bateau de SOS Méditerranée qui portait secours aux embarcations de migrants. Eh bien, c'est ce bateau qui a recueilli et sauvé notre invité aujourd'hui, Alpha Kaba. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous vivez à Bordeaux, vous avez suivi vos études de journalisme, à l'IJBA, l'Institut du journalisme Bordeaux-Aquitaine, que je salue au passage. Et vous avez écrit un livre autobiographique intitulé « Esclaves des milices, voyage au bout de l'enfer libyen », édité chez Fayard, là en février dernier. C'est un livre terrible car il raconte votre vie de réfugié ou de migrant forcé de quitter son pays, la Guinée, car recherché par la junte au pouvoir, donc fuir, seul, laisser sa famille et échouer en Libye. Vous allez nous raconter votre histoire, parce qu'elle est aussi celle de nombreux migrants, femmes, hommes, enfants. Tout d'abord, comment allez-vous aujourd'hui? Comment est votre vie actuelle à Bordeaux? C'est plus tout à fait votre nouvelle vie, hein, puisque ça fait maintenant deux ans.
C'est une nouvelle vie.
Mais c'est quand même une nouvelle vie. Ouais. Comment ça se passe? Comment allez-vous? Voilà.
Je vis tranquille à Bordeaux. Comme vous le dites, j'ai fait une formation en deux IJRI à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Et depuis mai 2018, j'ai été sous protection de l'OFPRA et je travaille un peu dans ma manutention en attendant de me trouver un appartement. Et ça va.
Vous sentez serein? Comment vous sentez?
Je me sens serein, bien sûr, et je continue à rentrer dans la vraie vie.
Ouais. Alors, dans la première partie de l'émission, nous sommes revenus sur l'histoire de Lampedusa, l'une des portes de l'Europe pour ces migrants venant souvent d'Afrique, comme vous. Mais avant de réussir à prendre la mer et de survivre aux vagues, au froid, au naufrage, on va remonter le temps. Alpha Kaba, vous êtes comment se prononce
Cancan.
Cancan, tout simplement. En Guinée, vous travaillez dans une radio de la ville. Comment votre vie bascule-t-elle? À quel moment et pourquoi?
À Cancan, j'étais journaliste, un petit journaliste dans une radio locale appelée Baté FM. Et on a été l'une des toutes premières radios à ouvrir l'antenne à la population. On me faisait des émissions interactives basées sur la vie sociétale et politique de l'administration locale. Donc on était en quelque sorte...
un espace de liberté dans une...
Un espace de liberté
dans un pouvoir autoritaire.
Voilà. Mmh. Et de là, à chaque fois, nous venons sur le terrain, on n'arrête pas de sensibiliser la population, notamment sur l'insalubrité. Mais s'il y a encore cas de corruption au niveau de l'administration locale, on enquête en tant que journaliste, on fait notre métier, et on vient à l'antenne, on fait le débat, un invité, après on ouvre l'antenne, les 30 dernières minutes à la population qui intervient et donne... son point de vue par rapport au sujet du jour. Et c'était en août 2013, le président devrait venir à Cancan pour son tout premier meeting à l'intérieur du pays. Et Cancan, c'est son fief notamment. Mmh. Et nous, on a profité parce qu'il y a eu détournement d'engrais et des intrants agricoles qui étaient destinés à la population. Le préfet, notamment le préfet et le maire,
Vous l'avez dénoncé.
Nous avons dénoncé. Dit, ouais. On a appelé la population à intervenir. Et quand le président est venu lors du meeting, les jeunes sont sortis avec des plaques à bas le préfet, à bas le maire. Ensuite, comme vous le savez tous, la politique, ça ne se gère pas comme ici. Il y a toujours les pour et les contre. Ils se sont jetés des pierres, le meeting a été saboté. Et après, ils ont dit qu'ils nous ont indexé la radio, que nous sommes instigateurs des événements qui se sont déroulés tantôt dans la journée. Et ensuite, ils se sont mis en enquête. La radio a été pillée. Et on a fui, mon directeur et moi, parce que moi j'avais un rôle un peu tout peu important, parce que je parle les trois langues de la Guinée. Et dans les émissions, je jouais le rôle de traducteur en langue vernaculaire des débats et tout ça là. C'est comme ça, ils se sont mis à nos charges.
Bien sûr.
Ils nous ont cherché, je me suis d'abord refusé à un moment, mais après, quand j'ai trouvé que ça n'allait pas, je me suis dit de partir et laisser ma famille et tous mes amis derrière moi. Chose qui était difficile, une décision qui était difficile à prendre. Mais à un moment donné de la vie, il le faut.
Et pourquoi ne pas rester ou demander l'asile dans un pays africain?
C'est ce que j'ai voulu au départ. D'abord au Mali, c'était tout près de Cancan. Mali, c'est à 300 km de Cancan. C'est les mêmes peuples, le Manding, si vous connaissez un peu l'Afrique de l'Ouest. Et c'est les mêmes peuples qui font le va-et-vient. J'ai eu des conseils de venir en Algérie. Où peut-être une promesse m'attendait d'être hébergé et dans l'avenir exercer le métier de journalisme.
Oui.
Donc je suis parti dans l'espoir et après ça s'est mal déroulé. Je suis parti du Mali, Bamako, au Burkina, du Niger, ensuite l'Algérie. Mais avant, mon idée c'était de partir en Guinée-Bissau, honnêtement. Parce que je n'avais aucune intention de partir loin de ma famille. Mais les choses ont basculé comme telles. Une fois à Alger, la personne qui devait me recevoir m'a mis de côté. Ils prenaient pas mon téléphone. Je suis resté là, aéré dans la ville, entre les gares, jusqu'à ce que j'ai rencontré un ouvrier qui m'a hébergé dans un squat pendant quelques temps. Et que, au même moment, je continuais à faire mes recherches, mais c'était très difficile. Dans un pays où tu parles en français, on te répond en arabe. Donc, la communication n'était pas là. Le racisme aussi sévissait, parce que quand je viens demander à certaines personnes, ils attrapent le nez pour histoire de dire que je suis noir, des trucs comme ça. Donc, vu le calvaire qu'ils ont passé entre Bamako lors de ma traversée jusqu'à Alger, mes amis m'ont proposé qu'ils vont aller en Libye.
D'accord.
Les ouvriers, les Ndiaye, les Abdoulaye et consorts m'ont proposé parce qu'ils voulaient partir travailler là-bas. Donc, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas rester dans le squat seul. Je suis parti avec eux.
Et vous êtes parti avec eux, vous vous êtes dit c'est un passage pour le coup pour l'Europe ou éventuellement je m'installe là-bas.
C'était pour m'installer. Et si les situations, si les choses reviennent dans les normes en Guinée, revenir dans mon pays que j'aime beaucoup. Et bon, ça n'a jamais traversé dans ma tête de venir en Europe parce que je ne me suis jamais fait un passeport même pour monter dans l'avion. Donc
bon, et là ça se passe mal puisque donc vous arrivez en Libye et on sait à quel point c'est souvent l'un des passages les plus dangereux. L'autre, évidemment, c'est la mer. Hein. Le grand péril, c'est la mer. Mais avant, il y a le péril libyen. Qu'est-ce qui se passe en Libye? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quand vous êtes arrivé en Libye, alors on ne peut pas tout raconter, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est un quart d'heure, mais racontez-nous quand même ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé pour vous et, pour vos compagnons d'infortune.
Tout d'abord, je ne savais pas ce qui se vivait en Libye. Ah oui. En 2013, je crois que la situation, les informations n'étaient pas beaucoup plus axées sur la Libye pour qu'on s'imprègne des réalités de la vie libyenne. Et c'est ainsi que je suis parti en Libye avec ces jeunes. Et entre la frontière algério-libyenne, on a rencontré un passeur qui devrait nous envoyer à Tripoli. Ce même passeur nous a revendiqué à un groupe de milices où ils nous ont déposséder tous nos biens, sacs et tout ce qui suit, porte-monnaie et tout. Ils ont mis le feu dessus. Ils ont braqué des armes sur nous. Les quelques personnes qui voulaient répliquer, parce que c'était tout à fait au début du calvaire, les quelques personnes qui voulaient répliquer.
Se défendre, quoi.
On les frappait. Donc, les données se sont renversées. Donc, ils nous ont pris, ils nous ont mis dans des pick-up, ils nous ont serrés pour nous envoyer dans une destination, honnêtement. Moi, je ne savais pas où ils voulaient nous envoyer, notamment avec des femmes. On nous envoie, ils nous mettent dans une petite maisonnette en périphérie des villes, parce que ce n'était pas en centre-ville, clôturée. Ils nous laissent dedans, sans manger, sans boire, au nombre d'une cinquantaine. On ne pouvait même pas s'asseoir tous. On alternait des fois, d'autres restent jusqu'à 10-15 minutes, tu te lèves, ton ami aussi s'assoit. Donc, en quelque sorte, une solidarité entre frères migrants ou frères avec tous ces frères avec lesquels j'ai traversé le calvaire. On est resté là. Le petit manger qu'on gagnait, c'était des biscuits. Ils envoyaient, nous jetaient comme des bêtes. On se partage les biscuits et un petit bidon d'eau qu'on buvait. Et on est resté là pendant environ 48 heures comme ça, dans cet état. Et une soirée, ils sont venus. C'est pas les mêmes personnes qui nous ont envoyé. C'était un marché. C'est pas un autre groupe de milices est venu avec 3 pick-up. Ils nous ont tous fait sortir. Avec d'autres migrants encore, parce qu'il y avait une pick-up dans laquelle il y avait des migrants, dans laquelle il y avait des migrants. Et ils nous ont mis dans les autres pick-up, serrés comme des boîtes de sardines ou comme si on pliait des habits qu'on met dans l'armoire tellement que c'était serré. Ils mettent des fagots de bois sur nous. Histoire pour qu'on puisse ressembler au moins à du sable ou à quelque chose qu'ils transportent. Ensuite, ils mettent la bâche sur nous pour nous envoyer d'un point à un autre. C'est comme ça on est venu à Beni Walid. Ils nous ont revendu, ils ont organisé un petit marché.
Aux esclaves, quoi.
Aux esclaves. Ils ont braqué des lumières sur nous, des voitures sont venues, ils ont fait un tour. Ils nous ont mis de côté. On nous envoie un à un. Ils font le marché, c'est ce que j'appelle de vente aux enchères, si vous voulez. Ils te mettent, ils nous revendent. Moi, personnellement, j'ai été revendu à 350 dinars. Vu ma corpulence, vu ma taille, Ils venaient, ils regardent ton œil, on tire tes oreilles pour regarder si tu es sain, ou on regarde tes cuisses, si tu n'es pas blessé, s'il n'y a pas quelque chose sur toi. Ensuite, s'ils veulent te prendre, ils te prennent. Donc c'est comme ça. D'autres ont été revendus plus que ça, d'autres moins. Et il y avait également des femmes qu'on a revendues tout. Et c'est difficile à décrire tout ça là, à expliquer tout ça là.
Bah vous le faites dans votre livre en tout cas. Il se passe quoi après? Vous restez combien de temps?
Je suis resté 2 ans et demi.
2 ans, c'est long, c'est très long. Qu'est-ce que vous faites pendant 2 ans et demi?
J'étais toujours dans l'état de... J'étais esclave, donc je possédais plus mes droits. Je pouvais plus revendiquer, les armes sont braquées sur moi. Je suis passé dans les mains de 4 maîtres. Je dis 4 patrons, même si ce n'est pas le bon terme. Je dis 4 maîtres qui, de Gadamès à Zabrata, 4 mètres. Quand je travaille avec un maître dans des chantiers, dans des plantations, où il nous envoie, on fait monter le sable, parce que parmi nous, les migrants, je dis migrants, à l'époque, on n'était pas migrants. Moi, personnellement, je n'étais pas migrant. Mais parmi tous ceux qui étaient là encore, il y avait des ouvriers, des maçons, des charpentiers, des footballeurs. Il y avait tout.
De tout. Hein.
De tout. Et nous, personnellement, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de métier, on était des manœuvres.
Et vous faisiez quoi?
Ils nous font travailler.
Oui, mais quoi?
Des
travaux durs, j'imagine.
Des travaux durs. On creusait des fois des caniveaux, des fosses septiques. On vidait des fois des caniveaux, des caca, des déchets. On nous envoyait couper les fleurs. Des fois, s'ils n'ont rien à faire avec nous, ils nous envoient, ils mettent des barbelés à terre, ils tirent sur, comment je vais dire ça, ils tirent en haut, en rafale, ils demandent de marcher sur ces barbelés. C'était comme si on était des sujets ou des jets de foi.
Donc esclaves et mauvais traitements. Les deux.
Traitements, les deux.
Des femmes violées?
Des femmes, ça, c'est... Des femmes violées, c'est ce qui a d'ailleurs, personnellement, m'a marqué lors de toute la traversée, où nous, les hommes, on est utilisés dans des chantiers, mais les femmes, quant à elles, on les exploitait en ce que j'appelle de l'esclavage sexuel. Ouais. Elles étaient louées encore au même titre que nous. Toutes les soirées, on vient, on les cherche, d'autres le matin. Quand ils ont besoin, on les envoie. D'autres accouchent là-bas, d'autres perdent la vie là-bas. Les enfants sont... Il y a certains enfants qui naissent là-bas, qui perdent la vie sur place, donc dans des conditions très difficiles et dans l'insalubrité totale.
Alors, face à ces monstres, vous écrivez quelque chose de très beau dans votre livre, dans ces prisons. C'est des prisons, évidemment. C'est rien d'autre que des prisons. Le fait de se regarder entre prisonniers, de se toucher afin de montrer qu'on n'est pas seul, ben c'est très fort. Et je vais lire quelques lignes qui relatent cela. Nous ne sommes pas libres de nos mouvements, mais à la soumission, à la violence, nous opposons la bienveillance et l'amour, les valeurs les plus simples, les plus belles et les plus douces de l'humanité. Je n'ai jamais autant aimé l'autre que durant ces jours à Campo. Face à l'innommable, quelque chose d'indescriptiblement aimant monte en vous. Ces hommes et ces femmes avec moi deviennent, au sens le plus pur du terme, mes frères, mes sœurs. La liberté, je ne l'ai pas dans mes gestes, je la trouve dans l'amour. Ainsi au travail, si un frère esclave est blessé et souffre, je ne détourne pas le regard. À la haine de soi, au dégoût, je réponds par l'attention. Je le console, avec un sourire parfois, un mot, quand je le peux, une caresse sur l'épaule pour lui rappeler qu'il n'est pas seul.
Je me dis que la meilleure manière de garder espoir et de vivre, parce que ses frères, c'est ma famille.
Bien sûr.
C'est une famille pour moi, parce qu'on traverse le même calvaire, on traverse la même souffrance. Donc, c'est quand je les vois vraiment, je me dis encore qu'il faut que je continue à vivre et de continuer à espérer peut-être une sortie, une bonne sortie ici. C'est pourquoi c'est en quelque sorte, c'est plus qu'une famille, c'est frères migrants, c'est plus que des frères, je sais pas comment le dire, mais
c'est une partie de vous-même,
c'est
en
une
fait.
Partie de mais ma oui. personne, quoi.
Puis arrive ce que vous n'espérez plus peut-être, le bateau. Alors on vous conduit sur la plage, d'autres migrants sont là, vous allez embarquer. Et tout à coup, vous avez très peur. Vous décrivez très bien ce moment qui vous fait presque regretter les hangars où vous attendiez d'être vendu. Peur de la mer, peur de la nuit, peur du froid. Page 203, je lis ces quelques lignes. Je n'ai jamais compris pourquoi Mohamed avait tenu sa promesse. Fait du prince ou culpabilité soudaine? Peut-être parce que, comme tout homme puissant, il espérait qu'une bonne action suffirait à faire de lui un homme bon. Le voyage sur la Méditerranée ne s'est pas passé comme prévu. Notre embarcation a fait naufrage à quelques kilomètres des côtes. 7 personnes y ont trouvé la mort. 3 femmes, l'une d'elles enceinte, et 4 hommes. Nous aurions pu tous mourir sans l'Aquarius, le bateau humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée qui nous a secourus. Eh bien, on va écouter une archive justement sur le rôle de l'Aquarius et du sauvetage des réfugiés.
141 rescapés à qui il faut expliquer pourquoi l'Aquarius est ainsi planté en pleine mer, moteur à l'arrêt.
Pour répondre à la question de où on va, la réponse, on l'a pas encore.
Cette situation, les équipes de Médecins Sans Frontières et de SOS Méditerranée s'attendaient à devoir l'affronter. Mais est-ce qu'on s'habitue à devoir expliquer à les personnes ayant fui les prisons en Libye qu'elles vont devoir patienter avant de dormir sur autre chose qu'un pont brûlant en acier ? Tanguy, marin sauveteur, est à bord de l'Aquarius depuis 2 ans. Sa réponse ?
Dans la mesure où je me suis habitué à ramasser des cadavres, je peux bien m'habituer à attendre.
Non, évidemment.
Au moins, cette fois-ci, c'est des vivants. On les traite avec dignité, ce que nos autorités ne font pas.
Cet homme se plaint de douleur. Il y a quelques mois, des Libyens lui ont tiré une balle dans le bras. Pour la lui retirer, il faudra attendre d'être
acquis.
Cette jeune femme de Côte d'Ivoire, jamais elle n'avait pensé un jour devoir se rendre en Europe. Elle vivait en Libye avant la chute de Kadhafi. Lorsque le pays a basculé,
moi, j'ai été vendue.
Prostitution forcée. Pour y échapper, elle n'avait pas d'autre choix que de traverser la Méditerranée.
Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui a des problèmes. Demain, ça peut être vous, les Européens. Ouvrez-nous les portes. Nous sommes des êtres humains.
Pour se réconforter et tuer le temps, il chante. Et quoi qu'il arrive...
Vous n'allez pas retourner en Libye ?
À bord de l'Aquarius, Maureen Mercier, France Inter.
Un jour, ça peut vous arriver, vous, Européens. Nous sommes des êtres humains. Vous vous souvenez de ce sauvetage en mer, évidemment, vous vous souvenez? Racontez-moi quand vous partez, la peur, on l'imagine aisément, et puis à un moment la délivrance. Comment ça se passe tout ça?
Tout d'abord, c'est la traversée ne s'est pas déroulée comme telle. C'était une liberté que j'appelle une liberté empoisonnée. Il fallait chercher la liberté sur la mer. Donc si tu péris, tant pis. Si l'Aquarius te sauve,
tant mieux
pour toi. Donc l'autre Judax s'est percé à quelques kilomètres, parce que c'est pas trop, mais on était encore loin de l'Aquarius. Et de l'eau de l'essence qui se mélangeait avec l'eau du sel, ça piquait plus que de l'acide. Et les gens se sont paniqués de là derrière. Et chacun voulait avoir la tête un peu plus haute pour respirer. Donc bousculade. C'est dans ces bousculades où il y a eu ces 3 femmes qui sont décédées, notamment une femme enceinte et ces 4 jeunes. Et c'est parce que passer 15 minutes, si on n'avait pas l'Aquarius, on allait tous mourir là-bas. Parce que c'était l'eau était venue jusqu'au niveau de nos hanches. Et plus le temps durait, plus on était près de la mort.
Oui, parce que l'embarcation prenait l'eau et s'enfonçait.
Heureusement, l'Aquarius est venu, ils nous ont parlé en langue italienne, anglais, ils ont traduit en français, ils nous ont jeté des gilets, ils nous ont demandé de se calmer, qu'ils vont nous sauver. Et c'est ainsi, ils ont pris les femmes, les enfants, comme vous le savez, ils commencent souvent par les enfants, les femmes, et ils viennent sur les jeunes. Pendant ce temps, moi, j'étais impatient. Je me suis jeté dans l'eau parce que ils m'ont remis un gilet de sauvetage avec un soufflet. Ouais. C'est ainsi, il y a une dame qui m'a tiré la main pour me faire monter dans le petit Zodiac de l'Aquarius et ils m'ont envoyé dans le grand bateau. Et la liberté, donc j'ai commencé à sentir la liberté depuis dans le grand bateau de l'Aquarius. Ils nous ont donné le manger, ils nous ont donné des couvertures, ils nous essayaient de nous temporiser, de nous donner de l'espoir, tout. Donc, je me dis...
Vous êtes senti à nouveau humain.
Humain. Après, je suis sorti humain. J'ai rencontré un sauveteur hollandais qui était là. Il parlait bien français. Je me suis rapproché de lui. Après tout ce temps, parce que quand je suis monté, je suis resté seul d'abord pendant quelques minutes. Après, je suis venu maintenant échanger avec le jeune qui parlait bien français. J'ai parlé, il m'a expliqué tout, comment ça se passe. Donc, ça m'a ramené... en quelque sorte dans la vie réelle, malgré que j'étais encore dans l'Aquarius.
Ouais. Vous êtes arrivé à Messine, en Sicile, donc. Il se passe quoi une fois que vous arrivez à Messine?
À Messine, quand on est arrivé, ils nous ont débarqué, ils ont pris nos empreintes. Bon, c'est en France ici que j'ai compris que j'ai demandé l'asile en Italie. Par contre, moi, je n'avais pas demandé. Ils ont pris juste nos empreintes. Ouais. On était entourés par des policiers. Ils ont pris nom et lieu de naissance, tout. Ils m'ont envoyé à l'hôtel de Perugia. C'est de là que j'ai appelé ma famille, j'ai appris le décès de mes parents, de mes frères et de ma copine et de mes...
Victimes de représailles?
Non, juste, je crois que c'est par maladie.
Ah, d'accord.
Donc après, ils m'ont imposé d'étudier la langue italienne en Italie, vu que moi je voulais pas du tout revenir encore sur le banc pour étudier une autre langue. Je parle déjà les trois langues de chez moi, parce que le français.
Vous vouliez le français, vous vouliez la France.
Il vaut mieux venir en France parce que je pourrais communiquer mieux avec les Français que de rester avec une personne avec laquelle je ne parle pas la même langue. Voici ce qui m'a envoyé en France ici.
Et vous arrivez en France combien de temps après et dans quelles conditions?
Je suis arrivé en France en octobre 2016. Je devrais passer, rester à Bordeaux ici, mais ils m'ont conseillé que la procédure de demande d'asile était plus longue à Paris ici. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile. J'ai préféré partir à l'intérieur, à Bordeaux, où j'avais un ami aussi demandeur d'asile que j'ai rencontré via les réseaux sociaux, notamment Messenger, qui m'a demandé de venir parce que là, il dormait au 115 à Emmaüs, qui pourra m'aider à m'installer. C'est comme ça que je suis venu à Bordeaux.
Toute dernière question, quel regard vous portez sur l'Europe et son comportement vis-à-vis de vous et de toutes les personnes qui vivent la même chose que vous, vis-à-vis des migrants, quoi?
Question. Et d'abord, je vais commencer par remercier la France pour qui m'a accepté, qui a accepté ma demande d'asile, qui a accepté que je sois réfugié et de me protéger. Il faut pas que j'ignore cette partie. Mais par contre, je demanderai à toutes les autorités, à toutes ces personnes qui ont un autre regard vis-à-vis des migrants, de penser honnêtement en sa personne, d'agir un peu plus d'humanité, un peu plus de solidarité et un peu plus de l'état de s'investir pour sauver encore. Parce que je sais, il y a des migrants, c'est pourquoi j'ai écrit le livre.
Très bien, merci infiniment. Alpha Kaba, esclave des milices, voyage au bout de l'enfer libyen chez Fayard, ça vient de sortir. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lampedusa et le drame des migrants, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Nicolas Cazot.